Kiss Thomas down, down, double down.
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable. Bienvenue à l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canus 102.2. Alors, c'est la rentrée du Grain de Sable, hein, première émission après l'été, et une émission qui sera consacrée à la Palestine, avec nos invités de l'association France-Palestine Solidarité.
Oui, bonjour. La Palestine est une habituée de l'émission, puisque nous avons déjà accueilli par deux fois ERAP pour le festival du film palestinien. Aujourd'hui, c'est une association qui défend le droit des Palestiniens qui est notre invitée. Donc, il y a trois personnes, Catherine, Françoise et Thérèse. Nous avons invité Françoise et Thérèse car elles pourront nous apporter un témoignage de ce qu'elles ont vu cette année en allant en Israël et en Palestine, Cisjordanie. Et Catherine, tout d'abord, eh bien, tu vas nous présenter l'association France-Palestine Solidarité.
Alors, l'association France-Palestine Solidarité, c'est une association loi 1901, qui est une association nationale, qui a été fondée en 2001, donc ça fait déjà un petit moment, mais à partir de deux autres mouvements qui existaient avant, qui est l'association médicale franco-palestinienne et l'association France-Palestine. C'est un rassemblement de personnes attachées au respect du droit et en l'occurrence au respect du droit des peuples et donc en l'occurrence au respect du droit du peuple palestinien. Elle est organisée en groupes locaux. Actuellement sur le territoire, il existe une centaine de groupes locaux pour environ 5000 militants. Qui ont leur autonomie, mais qui ont aussi leur place dans un rassemblement national qui prend les formes de toute vie associative, loi 1901.
C'est ça, tous les adhérents sont là à titre individuel ou vous avez également des personnes morales ou d'autres structures qui sont adhérentes?
Non, dans l'ensemble, c'est des adhérents à titre individuel. Après, on a des soutiens, on agit aussi dans le cadre de collectifs, et notamment ici à Lyon, dans le cadre du collectif 69 de soutien au peuple palestinien, qui là regroupe divers mouvements, des personnes physiques, des syndicats, des mouvements, voilà. Mais dont le lien commun, c'est le droit du peuple palestinien. Alors, qu'est-ce que l'AFPS agit pour une paix réelle et durable, fondée sur l'application du droit international? Voilà. Alors, ce que l'on veut, c'est plusieurs points essentiels, enfin évidemment, et vitaux pour le peuple palestinien, la fin de l'occupation, la création d'un État palestinien, la reconnaissance du droit au retour des réfugiés, qui sont quand même plusieurs centaines de milliers à être partis lors de la création de l'État d'Israël, et la protection internationale, ou en tout cas le soutien international à l'existence, à son existence et à son droit de vivre sur sa terre et de vivre de ses ressources. Alors pour ça, On agit sous différentes formes, voilà, par le biais de quelque chose que je trouve essentiel, c'est l'information, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce qui se passe, donc on tient régulièrement des points d'information pour parler aux personnes qu'on croise dans la rue d'un certain nombre de points.
Est-ce que vous estimez que les médias, tels qu'ils retranscrivent le sujet, qui n'est pas forcément d'ailleurs très très médiatisé, n'est pas suffisant ou pas pertinent?
Dans l'ensemble, je dirais qu'il y a une grosse tendance. Pour une grosse part, je vous répondrais oui, j'estime que les médias ne relaient pas suffisamment. Il y en a certains, malgré tout, qui de temps en temps font des sujets. Arte fait des sujets de temps en temps. Voilà, mais quand même dans et puis aussi certaines radios quand elles parlent de l'actualité internationale, elles en parlent un petit peu. Mais c'est pas la tendance générale, on va dire.
Oui, dans les grands médias qui soutiennent nos actions sur la Palestine, on peut citer malgré tout l'Humanité, ça reste quand même un grand journal.
Oui.
Et puis peut-être aussi Politis, qui est peut-être moins connu qu'un hebdomadaire. Et puis aussi il y a Mediapart, qui peut quelquefois avoir des papiers très intéressants.
La Croix aussi, je pense, de temps en temps fait des articles assez...
Le Monde dit plus.
Juste, oui. Voilà. Oh, alors, donc une action d'information, enfin, très très important, de l'action politique. On intervient et c'est bien parce que justement on est une structure nationale, on a une structure nationale, donc on a un peu. Il nous est possible d'intervenir au plan politique, bien sûr localement aussi on peut, hein, mais c'est important d'être un mouvement national pour le faire. Donc pour demander que soit mis fin à l'impunité d'Israël, pour le respect du droit international, pour un certain nombre de questions et notamment aujourd'hui une actualité assez désolante, enfin voilà, même le mot désolant n'est pas assez fort, qui concerne un jeune franco-israélien, franco, voilà, il fallait que ça soit fait, c'est fait, un jeune franco-palestinien qui s'appelle Salah Amouri, qui en fait a déjà fait de la prison, il a déjà fait 7 ans de prison sur des accusations complètement mensongères, il a été libéré au profit d'une opération de libération des prisonniers, 2 prisonniers palestiniens contre un Israélien qui était un franco-israélien pour le coup là, qui était dans l'armée, voilà, israélienne, et il a été donc libéré, il fait des études d'avocat, mais il est constamment empêché de circuler, et là il a été arrêté de façon extrêmement brutale et évidemment sans motif. Ça fait maintenant 23 jours et depuis 23 jours il est en prison sans savoir pour quel motif, avec des reports constants de notification d'une décision, et maintenant depuis aujourd'hui on sait que ça y est, il est sous ordre de mise en détention administrative. Voilà, donc c'est un exemple de l'arbitraire dans lequel vivent de nombreux Palestiniens, puisqu'il y a quand même beaucoup de prisonniers dans les prisons israéliennes, plusieurs milliers, qui ne savent pas pourquoi ils y sont quand même dans l'ensemble.
Il faut rappeler qu'il y a deux types finalement de prison ou d'enfermement. Hein. Il y a bien sûr les prisonniers qui ont été jugés par des tribunaux militaires, puisqu'il faut quand même rappeler que la Cisjordanie est en grande partie occupée, et donc les jugements se font par tribunaux militaires. Et puis il y a aussi la détention administrative, qui ne permet pas aux personnes qui sont détenues de cette manière de se défendre, hein, puisque il n'y a aucun droit sur la détention administrative, qui peut être renouvelée de 6 mois en 6 mois sans justification. Donc c'est vraiment une situation très 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 difficile, hein, pour les Palestiniens, les jeunes Palestiniens qui, on sait que quasiment dans toutes les familles aujourd'hui, tout le monde a connu la prison ou connaîtra la prison ou la détention administrative. Je rappelle, Catherine, aussi, tu parlais des réfugiés tout à l'heure, le droit au retour aux réfugiés, qu'un certain nombre de réfugiés sont sur le territoire de la Cisjordanie et Gaza, du fait, effectivement, de ce qu'on a appelé la Nakba, hein, en 48. Donc un certain nombre de Palestiniens ont fui les villages qui aujourd'hui sont situés sur le territoire d'Israël, sans espoir de retour, et ont fui vers l'étranger, effectivement, la Jordanie, le Liban, la Syrie. Mais aussi, il y a des réfugiés sur le territoire de Gaza, et sur la Cisjordanie. Mmh.
Alors un autre de nos moyens d'action, c'est le soutien matériel en faveur des populations palestiniennes. Alors ici, sur notre territoire, nous avons une spécificité qui est la structure régionale. Nous avons une structure régionale AFPS sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette structure a une action très précise qui est d'apporter de l'aide aux Palestiniens. Alors on a eu toute une opération de réhabilitation de bassins de rétention d'eau dans la vallée du Jourdain. Et aujourd'hui l'actualité, c'est la remise en état de maisons palestiniennes détruites ou en tout cas bien abîmées par les Israéliens. Et donc on travaille à la reconstruction, réhabilitation de ces maisons pour permettre aux gens de rester chez eux et de pas être obligé de s'en aller.
Et donc pour ça, vous collectez des fonds, ou ça passe aussi par du bénévolat, ou vous travaillez avec des associations là-bas?
Alors pour cela, oui, on a un relais là-bas sur place qui veille à la mise en place des travaux et au suivi des travaux. Mais effectivement, tous les groupes de la région, donc c'est une grosse région, hein, Rhône-Alpes c'était déjà une grosse région, Auvergne, Rhône-Alpes, plus deux groupes du Sud qui nous ont rejoints, on donne tous de l'argent et il y a des dossiers de demande de subvention qui sont faits et notamment la région nous aide. Hein, la région nous a aidés jusqu'à maintenant de façon très 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 précise.
Voilà. On continue à le faire.
Oui. Oui, on espère mener à bien cette opération qui c'est un peu une opération triennale. Ça s'étend sur 3 ans et on réhabilitera 45 maisons. 15 par an. Voilà, pour l'instant, on pense qu'on va réussir à atteindre nos objectifs, oui.
Et ça, c'est une action que vous menez depuis longtemps? Est-ce que vous avez fait d'autres types d'actions?
Alors, on a fait juste avant, en région, hein, vous me posez. Oui, on a fait la réhabilitation de bassins de rétention d'eau pour leur permettre d'avoir des réserves d'eau. Donc ça a été fait. Il y a eu un certain nombre de bassins, je ne sais plus combien, une dizaine, ou peut-être moins, qui ont été remis en état et bien installés pour que ça puisse être efficace. Voilà, puis ça c'est dans les 6 années qui viennent de se passer. Après, j'en sais pas plus pour le passé.
En termes de soutien aussi, je regarde Thérèse parce que, et puis Françoise, il y a aussi la vente des produits artisanaux hein, qu'on fait venir régulièrement. D'ailleurs, on espère, enfin, quand je dis nous, parce que je suis aussi membre de la FPS, alors j'ai tendance aussi à dire nous. Nous espérons, comme l'année dernière, participer au marché de Noël de Villeurbanne. Oui. Et là, effectivement, ça permet de faire connaître l'artisanat palestinien.
Qui est très beau.
Racontez-nous un peu, là, toutes les deux.
Non, ben vas-y.
On est en lien avec des artisans, des commerçants là-bas en Palestine. En particulier, on fait venir des céramiques. Des bronzes, des broderies de Ramallah ou Bethléem, du bois d'olivier, des objets en bois d'olivier de Bethléem. Et puis aussi on vend des produits comme l'huile d'olive de Palestine. Et
les savons de Naplouse.
Les savons de Naplouse, le zaatar. Mmh. Voilà. Et le bénéfice.
Et les kéfiers.
Et les kéfiers, bien sûr. Voilà. Et le bénéfice de ces... Ouais. Et voilà, les kéfiers, les vrais kéfiers viennent des brons. Quand on fait ce marché de Noël ou d'autres ventes, le bénéfice sert à soutenir les actions dont vient de parler Catherine. Voilà, pour la reconstruction des maisons ou autres projets que l'on soutient là-bas.
Et vous organisez également des événements vous-même, à destination du grand public?
Alors ça dépend ce qu'on entend par événement. Oui, il y a ce qu'on fait dans la rue, ce qu'on fait des mobilisations précises. Alors oui, c'est vrai que oui c'est nos moyens d'action aussi, des conférences, des projections. Vous disiez que vous aviez reçu Erab, donc vous un film peut donner lieu à un débat. Oui, des conférences bien sûr. On a aussi des Palestiniens qui viennent, hein, qui passent, qui viennent là et donc c'est l'occasion effectivement d'organiser des soirées pour les écouter parler de ce qu'ils vivent. Et puis événements, ben il y a donc il y en a un très bientôt. Donc il y a une troupe de jeunes danseurs palestiniens qui vient à Lyon le 23 septembre. Donc il faut vraiment que tout le monde vienne parce que c'est magnifique, c'est les danses traditionnelles, c'est très très beau. Ce sont des jeunes danseurs d'un camp de réfugiés de Bethléem. Et voilà, pour eux c'est important aussi, et pour nous de les accueillir, de faire connaître leur culture. C'est très très, en général, très bon. On a envie d'aller danser avec eux, sauf qu'il y a quand même un petit peu de technique, donc c'est pas forcément évident. Mais donc le 23 septembre, retenez tous votre soirée et rendez-vous à 20h30 au Palais de la Mutualité à Lyon, et vous passerez une soirée fantastique en compagnie de tous ces jeunes qui sont très qu'on a envie d'aider, voilà, et puis de regarder. Et de,
c'est l'association, voilà, Partage qui a organisé l'événement, voilà.
Oui,
donc et nous, on est en lien, bien sûr, avec eux, il y a un partenariat. Et ben oui, tout le monde essaie de faire sa pub pour que cette soirée soit un succès et que ces enfants qui donnent beaucoup de leur temps pour les répétitions et qui mettent le meilleur d'eux-mêmes dans leur talent, et ben voilà, ils passent un très bon moment à Lyon et en France. À l'occasion de leur spectacle.
On a bien noté le rendez-vous, on le rappellera à la fin de l'émission dans l'agenda. Et puisqu'on parlait danse, eh ben on va passer à une pause musicale.
C'était le trio Joubran Asfar.
À nous, donc, avec nos invités, l'association France-Palestine Solidarité. Donc, la première partie de l'émission, nous avons... Vous nous avez expliqué ce qu'était l'association et ce qu'elle faisait. Donc, on n'avait pas tout à fait terminé. Donc, il y a également le BDS.
Oui, alors BDS est un grand mouvement dans de nombreux pays d'ailleurs, hein, européens. C'est un mouvement qui est très relié de façon internationale. Et ici, sur Lyon, avec tous nos partenaires dont on a parlé tout à l'heure, ça veut dire, alors BDS, ça veut dire boycott des investissements sanctions. Donc boycott, c'est éviter d'acheter des produits israéliens, notamment fabriqués dans les... Parce qu'on sait que un certain nombre de produits sont fabriqués dans les colonies, donc au détriment de ce que les Palestiniens peuvent avoir pour eux-mêmes. Et puis, ça installe, oui, j'en ai pas parlé de la colonisation, mais ça installe quand même l'occupation, voilà. Donc là, on a mené pas mal d'actions à ce niveau-là. Des investissements...
Ça, c'est une action qui est portée également par d'autres structures.
Oui, alors je parlais tout à l'heure du collectif 69, donc on est ensemble. Puis il y a aussi un mouvement national BDS, hein, qui est en tant que tel tout à fait répertorié et qui a une existence précise. Et des investissements, alors là c'est engager les entreprises à s'en aller. Quand elles ont des partenariats avec des entreprises israéliennes, puisque en mettant...
Des entreprises françaises, là, on parle bien de...
Oui, des entreprises françaises, alors dans d'autres pays, voilà. Mais l'idée, c'est de leur dire, c'est de dire qu'il n'est pas correct, il n'est pas éthique et il n'est pas moral de faire des affaires avec des entreprises d'un pays qui ne respecte rien en matière de droit international, de droit des individus, etc.
Et je dirais même que c'est illégal.
Oui, alors c'est illégal. D'ailleurs, le slogan du...
Elles risquent d'avoir des problèmes, les entreprises, si elles font ça, par la suite, elles risquent d'avoir des problèmes parce que c'est illégal.
Voilà. Donc, c'est vrai que pendant un moment, l'étiquette de l'action, c'était « made in illégalité ». On a d'ailleurs mené toute une campagne aussi sur ce thème-là. Et puis, le dernier, le S de BDS, c'est « des sanctions ». Donc, c'est effectivement... que des entreprises ou des partenaires puissent être sanctionnés pour des alliances, je dirais pas contre nature, mais contre morale. Voilà.
Je rajouterais même que la sanction vise aussi l'État d'Israël, puisque l'État d'Israël n'applique pas et ne veut pas appliquer les résolutions de l'ONU, et donc ne respecte pas le droit international. Donc la sanction ne concerne pas uniquement Israël, les entreprises, mais vise aussi quand même à demander au gouvernement de sanctionner Israël en arrêtant par exemple des accords de coopération comme il peut y avoir aujourd'hui. En Europe, l'Union européenne a un accord de coopération avec Israël. Et donc, nous, on se bat pour dire non, stop, tant qu'Israël ne respectera pas les résolutions de l'ONU, il n'arrêtera pas la colonisation qui est quand même illégale.
Alors, tout récemment, on a, juste pour préciser, on a mené des actions importantes auprès des banques. Auprès d'un certain nombre de banques qui sont qui investissent, qui voilà, ça, il y a eu un gros mouvement et ça a été intéressant parce qu'on se rend compte à chaque fois que beaucoup de gens sont peu ou mal informés. Donc c'est voilà, on a des accueils diversifiés suivant les cas, mais l'information c'est important.
Et rappeler aussi qu'en tant que citoyen, on a souvent un compte en banque et que c'est notre argent en fait qui est réinvesti.
Tout à fait, ça faisait partie de l'argumentaire.
Alors, dans les actions aussi des militants, eh bien, les militants aiment bien aller voir aussi ce qui se passe en vrai, pas uniquement dans les ouvrages à la télé, etc. Et donc, c'est vrai que en tant que militant de la FPS, eh bien, un certain nombre de militants ont pu aller en Palestine à plusieurs reprises. Et donc, Thérèse, tu vas nous dire, c'est la 10e année, il me semble, hein, que tu es allée en Cisjordanie. Donc, tu vas nous parler de la situation de Bethléem, de Ramallah.
Oui, plutôt cette partie de la Cisjordanie, puisque c'est celle que je connais le mieux. En fait, mon premier voyage, je vais faire un bref historique, c'était en 2003, c'était encore l'intifada. Et c'est là que j'ai découvert la situation des Palestiniens dans une période de tension extrême. Et je ne comprenais pas tout à l'époque, mais quand on voit ce qui se passe, quand on entend et quand on vit un petit peu sur place avec les Palestiniens, c'est pas très compliqué de s'apercevoir de cette injustice qu'ils vivent au quotidien. Et surtout cette période, donc c'était encore l'intifada, où à ce moment-là, on construisait, c'était le début de la construction du mur. Donc il y avait quelques plots de béton par-ci, par-là, surtout Jérusalem-Est, là ça commençait. Mais on escaladait à l'époque, on passait à travers un grillage, enfin on se débrouillait. Les Palestiniens surtout essayaient de se déplacer malgré déjà ces obstacles. Et puis c'était aussi le début des checkpoints. Enfin, les checkpoints étaient depuis 2000 commençaient à. Mais moi, j'ai découvert ça à cette époque et c'était dur. J'ai des souvenirs de choses dures à vivre. J'étais à Jérusalem Est à ce moment-là et j'avais passé quelques jours à Bethléem. Et là, vraiment, je me suis rendu compte de la situation. De souffrance du peuple palestinien et qui avait peur de ce qui se passait avec des incursions de l'armée israélienne au quotidien, surtout dans les camps de réfugiés. Moi, j'étais pas très loin à ce moment-là. Et puis de l'avenir, quoi. Ils se demandaient comment les choses allaient évoluer. Voilà, ça a été mon premier contact un peu assez fort avec le contexte. De ce conflit, de ce peuple palestinien. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je retourne là-bas. Donc là, ça, j'allais dire que chaque fois que j'y vais, c'est un peu une piqûre de rappel. Parce que en 2004, j'ai passé 2 mois comme volontaire dans un atelier de personnes handicapées à Bethléem, enfin à côté, à Betsaour exactement. Et là aussi, ça a été de plus en plus une prise de conscience de la situation et de notre responsabilité quelque part, en tout cas de notre désir de les aider, d'être solidaires. Donc c'était un peu mon objectif, à la fois d'observer et à la fois d'aider. C'est un j'allais dire modestement, j'ai apporté un petit mon aide à des gens en difficulté, et je crois que leur réaction, ça a été pas seulement merci, ça a été on n'est pas oublié, vous venez nous voir, c'est bien, et vous voyez, vous pouvez témoigner au retour.
Voilà. Oui, quand tu parles d'aide, il y a effectivement le fait que tu étais bénévole, effectivement tu as certainement effectué un travail, mais il y a également ce côté soutien
moral, hein. Dire vous n'êtes pas tout seul, et puis du coup c'était l'occasion aussi de parler des associations qui travaillaient dans le sens de cette solidarité dont ils avaient besoin, mais ils avaient encore plus besoin, je pense, moralement, de pas se sentir oublié, qu'on parle d'eux en France.
Est-ce que vous arrivez quand même aussi à avoir des actions entre guillemets politiques là-bas, ou c'est même pas la peine?
Alors maintenant oui, mais à l'époque moi j'en étais pas là. D'ailleurs, je me suis engagée plus tard, à mon retour, après un an passé là-bas en 2006-2007. Parce que là, vraiment, j'ai été, j'ai pris le virus un peu de la Palestine et j'ai eu besoin d'y retourner régulièrement. Donc, soit en voyage, soit en visite. Et après, je me suis engagée pendant un an en tant que volontaire de solidarité internationale, donc bien par le biais d'une ONG, et je suis retournée dans ce même atelier pour apporter à la fois mes compétences et mon aide très très concrète, très matérielle. Mais c'est après que j'ai vu justement cette dimension politique qui était très très importante pour pouvoir faire changer les choses à un autre niveau. Et je crois que Françoise, tu voulais dire quelque chose?
Oui, non, je voulais simplement dire que ces Palestiniens, quand on arrive, toi, tu as travaillé pendant un an, nous, quand on y va sur un mois, la seule chose qu'ils demandent, c'est qu'on vienne les voir, qu'on les écoute. Ils nous montrent, il nous explique, parce que la situation est très compliquée, il nous explique, et la seule chose qu'il demande à par la suite, c'est une fois que nous repartons, c'est de témoigner, d'expliquer, de faire comprendre. Il y a un tel mutisme au niveau national, que international plutôt, qu'il faut prendre tous les moyens pour expliquer au monde entier que cette Palestine, ça fait 70 ans qu'elle est sous occupation et que personne ne bouge.
Oui. Tu peux peut-être dire dans quelle région tu...
Alors, j'allais un petit peu... Je vais en Cisjordanie, mais là, j'aimerais surtout parler des Bédouins du Negev. Les Bédouins du Negev, ce sont des Arabes qui sont israéliens. Donc, ils ont les mêmes droits, en principe, que les Israéliens. C'est-à-dire, ils votent, ils payent des impôts. Il y a des Bédouins qui font leur service militaire ou qui vont dans la police. Et on les recrute parce qu'ils parlent arabe et qu'ils savent très bien, surtout les Bédouins du Negev, ils savent très bien pister les gens et faire des interprètes et servir de guide. Ils peuvent prendre l'avion à Ben Gourion sans aucun problème. Ils peuvent se promener dans tout Israël, il n'y a aucun problème. Mais ce sont des Bédouins. Et Israël veut récupérer tout le Negev.
Et le Negev, donc
tu... C'est un désert qui est au sud, qui va jusqu'à Eilat. Un désert dans lequel les Bédouins arrivent à vivre parce qu'il y a de l'eau. Moi, je l'ai vu en hiver tout vert. Donc la nappe phréatique en dessous est pas très loin et on peut cultiver. Et les Bédouins ont toujours vécu, parce que maintenant ils sont sédentarisés, toujours vécu en autarcie. Ils pouvaient se nourrir, ils avaient des animaux, et ils pouvaient faire vivre toute une tribu. Parce qu'il faut savoir que les villages bédouins, c'est toute une tribu de la même famille. Alors, Israël s'est dit, ce Negev, il y a Ben Gourion qui a dit, il faut le rendre vert.
Il était occupé par d'autres bédouins, personnes, non uniquement.
Voilà. Des Bédouins. Donc ces Bédouins étaient là au début, ils étaient 70 000. Et ils ont subi la Nakba, pareil. Il y en a 55 000 à 65 000 qui sont partis.
La Nakba pour...
Nakba, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État d'Israël... C'est la catastrophe. L'État d'Israël a été instauré, tout de suite, ils ont compris que les Palestiniens, les Bédouins n'étaient pas la bienvenue. Donc, ils ont essayé de les mettre dehors. Il y en a 55 000, 60 000 qui sont partis. Égypte et Jordanie. Mais il y en a d'autres qui sont restés. Et c'est des camps, alors c'est ces villages bédouins, c'est des amas de tôle, de plastique, un petit peu de maisons en dur, et ils vivent tous là ensemble, tous la même famille, et ils vivent très bien en autarcie. Certains ont des documents comme quoi ils sont propriétaires de leurs terres depuis le temps des Ottomans, mais pas tous.
Et ils ont des titres de propriété ou...
Mais Israël ne les reconnaît pas, parce qu'ils ne sont pas sur le cadastre d'Israël.
Et donc, c'est récemment qu'ils ont envie de récupérer ces terres?
Ça fait depuis 48.
D'accord.
D'accord. Donc, Israël a deux buts dans ce désert. Le nord, y mettre des forêts et mettre des fermiers cultivés.
C'est une espèce de colonisation dans sa propre
voilà,
terre.
Voilà, exactement. Et le sud, ils veulent mettre tout l'armée, parce qu'à Dimona, c'est là où il y a tout le centre de recherche nucléaire qui a été installé grâce aux Français. Et qui n'est pas déclaré.
Oui, tu as raison. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est vrai que Lucie disait, finalement, c'est presque une colonisation
dans
leur propre territoire. Mais effectivement, mais Israël, depuis 1948, se construit par l'expropriation, le vol de terre, l'exploitation de ressources naturelles qui ne lui appartient pas, que ça soit ou qui voilà.
En même temps, il y a un côté apartheid, c'est
voilà.
Des Bédouins. Hein.
Et donc que ça soit en Cisjordanie, et je pense que Thérèse, tu reparleras du mur, par exemple, et qui encercle maintenant Bethléem et qui coupe aussi des terres agricoles, etc. Mais effectivement, pour les Bédouins, et ben c'est aussi finalement l'expropriation et enfin le vol de leur territoire où ils pouvaient effectivement élever créer des animaux, enfin
vivre comme ils l'entendaient.
Comme des nomades.
Tout à fait.
Et c'est des déplacements de population de nouveau, parce qu'on parle des déplacements de population en 48, en 67. Et là, moi, je me suis aperçue cette année. J'ai eu la chance, quand on est parti au mois de mai, de rencontrer un groupe du CCFD et de voyager 3 jours avec eux en Galilée. Et on a pu visiter Acca, Saint-Jean d'Acre, avec une association israélienne qui défend pour la paix, pour la justice, qui défend le droit des Palestiniens. Et c'était vraiment très choquant de voir la politique. Bien sûr, le ministère du tourisme israélien et la politique en général d'Israël, c'est-à-dire de virer toute la population arabe de cette région, de Saint-Jean d'Acre, comme ils ont déjà fait à Jaffa, pour les mettre à la périphérie des villes, alors que ce sont donc parce qu'ils veulent récupérer les belles maisons en leur disant qu'ils n'ont pas les moyens de les restaurer, donc ils leur donnent des ultimatums, enfin il y a des conditions, voilà, et en général ils ne peuvent pas, donc ils sont obligés de partir. Et là on a vu des tas de maisons, vraiment on les a vues, il y a déjà les plaques du ministère du tourisme israélien, et des travaux sont faits, ça sera des très beaux hôtels ou des logements pour étudiants, et voilà. Et pendant ce temps, les Palestiniens de cette région, Saint-Jean d'Acre et voilà, donc cette partie de la Galilée, sont obligés de partir, alors que ce sont des gens qui avaient été déplacés. Enfin, il y a plusieurs générations, évidemment, qui étaient arrivés à Saint-Jean d'Acre ou à Jaffa parce qu'ils avaient été chassés des villages palestiniens. Et là, c'est un petit signe au CCFD qui a fait un très bon document sur le déplacement des populations en Israël, en Palestine, bien sûr. Voilà, qui explique très bien l'histoire. Mais là, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Et je ne suis pas ni compétente et on n'a pas assez le temps de...
Tu as raison, c'est ce qu'ils font avec les Bédouins. Mais alors, ils les rassemblent dans des villes. Un Bédouin vivre dans un appartement, c'est impensable.
Et des villes qui sont construites...
Exprès pour eux.
Ça fait marcher le PIB aussi, la construction.
Pourquoi pas, hein ? Mais alors, le problème, c'est que les villes sont trop petites maintenant. Parce que vu le nombre de Bédouins, ils ne sont pas prévus assez larges. Et l'autre problème, c'est qu'il y a toute une couche de la société israélienne populaire pour qui vivre dans des villes israéliennes, c'est trop cher, s'installe dans ces villes reconnues pour les Bédouins. Et naturellement, eux, ils ont l'eau, l'électricité, le gaz, les moyens, parce qu'à ce moment-là, c'est moins cher, d'avoir des très belles maisons avec des beaux jardins, ce qui crée des tensions sociales énormes dans ces villes.
Est-ce que ce ne serait pas une stratégie, justement, quand on parlait de colonisation, de dire avoir construit ces villes pour les Bédouins et d'arriver à installer...
Peut-être. Alors, vu qu'il n'y a pas assez de villes, alors qu'ils en ont fait 7...
Oui, parce que les Israéliens ont beaucoup de stratégies.
Ils sont très calés.
On s'en rend compte sur place.
Ils en ont fait 7, mais elles sont pleines. Alors, quand vous allez dans ces villes-là, c'est vraiment la débandade, parce que toutes les infrastructures traditionnelles qu'on offre aux Israéliens, eux l'ont pas, ou c'est vraiment, minable. Vu qu'ils n'arrêtent pas de démolir des villages, ces villages, les gens, ils vont où ? Parce qu'on ne leur dit pas où aller. Donc, il y a autour de ces villes 11 villages qui sont reconnus. Ce reconnu, ça veut dire qu'ils ne vont pas être démolis jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant,
parce que ça change. Et dernièrement, il y a d'autres villages qui restent encore dans le désert. Il y a le fameux village Al-Rakib. Il a été détruit 118 fois. Et aujourd'hui, il a été détruit alors que la famille vivait dans le cimetière de la tribu. Alors non seulement il y a le scandale d'aller dans le cimetière, et en plus, le cheikh du village, il a été arrêté, aujourd'hui même.
Et sous quel motif ?
Parce qu'on veut ses terres. Et lui, il se bat parce qu'il est intelligent comme tout, il parle anglais, il parle hébreu, il parle arabe, il sort tous ses papiers, et il y a une association juive qui les soutient énormément, qui s'appelle Negev Coexistence Pacifique.
Oui, mais il n'y a pas de motif, la question du motif...
Non, ils veulent les terres.
Non, mais la raison, on le sait, c'est parce qu'ils veulent les terres, mais quel est le motif qui est donné pour l'arrêter? Il y a un motif?
Ben, c'est parce que ça fait 118 fois qu'on lui dit que ces terres ne lui appartiennent plus, qu'il faut qu'il les rende, et eux, ils se battent.
Avec la violence aussi, de s'attaquer symbolique, de s'attaquer à un sanctuaire.
Ah oui. Alors bon, quand ils démolissent un village, l'armée, c'est pas l'armée là. Hein. Non seulement ils doivent payer la démolition. Et quand il y a les bédouins, ils vivent avec des panneaux solaires parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Et ils vivent avec de l'eau. L'eau, ils vont l'acheter dans des camions citernes ou c'est des grosses citernes tirées par des chameaux, des ânes, des machins. Alors, ils démolissent tout, mais ils récupèrent les panneaux solaires. Alors, imaginez que des enfants qui rentrent de l'école, soi-disant, parce qu'il n'y a pas d'école non plus, donc ils vont loin, très loin pour aller dans les écoles. Imaginez que des enfants qui rentrent, ils voient tout le village détruit, et c'est détruit en peu de temps. La famille a juste le droit de remplir une cantine ou une caisse, et tout est démoli.
Il y a eu des écoles détruites et
je me souviens qu'elles avaient été
reconstruites, il me semble.
Dans la nuit.
Par la France, il y avait eu des...
Non, ça en a même en ce moment qui se... soutenues par des associations sont reconstruites dans la nuit.
Oui, ouais, et de nouveau détruites.
Ah, bien sûr, de nouveau détruites.
En plus, c'est un... Enfin, au niveau de l'argent, de l'investissement qui est mis dans ces reconstructions et que c'est de nouveau détruit, enfin, on peut être que choqué, quoi.
Ah ouais.
Par ce... On pourrait aussi, justement, parler... il y a cet aspect de l'apartheid aussi en Israël entre les populations juives israéliennes et les populations arabes israéliennes, les Palestiniens d'Israël. C'est de plus en plus marqué.
Le sous-peuple. En Israël, c'est le sous-peuple.
Oui, quelque part.
Et ça se manifeste, ça se caractérise de quelle façon?
Alors, moi, cette année, j'ai vu à Nazareth, parce que Nazareth, c'est une ville arabe, et les Israéliens ont construit un autre Nazareth, Nazareth Illit, ça veut dire la haute, en fait. Hein, ils sont toujours au-dessus, bien sûr. Et donc là, avec des belles maisons, des beaux jardins, enfin bon. Et en fait, la municipalité ne donne pas les mêmes moyens pour tout ce qui est des infrastructures ou des écoles. Ils n'ont pas le côté juif israélien et les Palestiniens d'Israël n'ont pas les mêmes... donc là, ça se voit, ils expliquent aussi qu'ils n'ont pas autant de moyens. Et aussi au niveau de la langue, ils essayent maintenant de... et je crois qu'ils ont décidé que l'arabe ne serait plus une des langues officielles. Et effectivement, les jeunes Palestiniens d'Israël parlent très bien l'hébreu, puisque voilà, ils sont nés en Israël. Et pour accéder à l'université, ils sont obligés d'avoir un très bon niveau en hébreu. Et ils veulent s'assimiler, parce que c'est leur chance de s'en sortir, d'avoir un avenir. Mais par contre, il y a quand même des tas de Palestiniens d'Israël qui se battent pour garder la langue arabe comme langue officielle, parce que c'est très grave de vouloir la faire disparaître. Elle est aussi enseignée dans les écoles, dans les universités, mais voilà, on a l'impression qu'il y a une sorte de normalisation aussi par rapport à ça.
Je pense que la difficulté, hein, vous nous en reparlerez, mais la difficulté pour les Palestiniens aussi, c'est leur condition de vie, la séparation qu'ils subissent, que ça soit effectivement par rapport à Gaza, en Cisjordanie, par rapport au mur, on ne peut pas se déplacer, les familles ne peuvent pas se rencontrer régulièrement, on ne peut pas se déplacer jusqu'à Jérusalem, donc il y a des familles palestiniennes qui effectivement qui sont en Israël, mais qui peuvent pas forcément aller voir leur famille en Cisjordanie ou même sur Gaza. Ce n'est pas possible, donc il y a une vraie souffrance pour toutes ces personnes. Et moi, je voudrais quand même que vous nous reparliez quand même aussi, vous l'avez évoqué toutes les deux, du problème de la jeunesse, des enfants, parce qu'effectivement, aujourd'hui, que ça soit à Gaza par le blocus, par les bombardements,
c'est encore pire.
Que la Cisjordanie, par la violence qu'ils subissent au quotidien ou la nuit, hein, par
il y a non seulement la violence, mais l'humiliation, voilà. C'est permanent.
Donc aujourd'hui, les jeunes Palestiniens, les enfants subissent des traumatismes
énormes. Énorme, énorme.
C'est difficile de. Parce que c'est un sujet très vaste aussi, même. Ouais. On pourrait parler de Gaza, bien sûr, puisque si Gaza, c'est une prison à ciel ouvert et qui est sous blocus depuis des années. Moi, je ne serais pas trop capable d'en parler. J'y suis pas allée, d'abord, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, à moins d'avoir une autorisation. Oui, quelque chose de très officiel par le consulat. Enfin bon, je ne suis pas allée à Gaza. Mais je crois aussi, enfin, il faut... Il y a des souffrances des deux côtés au sens... Enfin, je parle des Palestiniens d'Israël qui ont la nationalité israélienne, qui ont logiquement les mêmes droits, qui peuvent voyager par Tel Aviv, Ben Gurion. Mais actuellement, par exemple, les gens qu'on a rencontrés cette année, ils ont un vrai problème d'identité. Parce qu'ils savent plus. Justement, maintenant, on parle presque plus l'arabe dans ces... Voilà. Et puis, même, il y a des familles qui leur disent pas de leurs origines. Enfin, on va occulter l'histoire petit à petit. Ça, c'est très, très grave. Dans leur tête, ils ont un problème d'identité, qu'ils sont, où ils vont. Enfin... Par contre, en Cisjordanie, c'est différent.
Ce problème d'identité, est-ce que ça correspond un peu à une soumission, à l'abandon de la résistance ou...
Non, c'est un ras-le-bol.
Si
je peux parler comme ça, c'est un ras-le-bol.
C'est un ras-le-bol et c'est surtout pour cette jeunesse de voir un avenir qu'ils n'auront pas s'ils sont résistants, enfin dans le sens de garder leur identité vraiment.
Et puis la difficulté de la vie au quotidien, enfin tout est difficile.
Ils sont quand même pas tous comme ça. Hein.
Non,
parce que les trois quarts quand même restent résistants. La preuve, ce qu'on appelait l'intifada des couteaux. Ce sont des jeunes qui font partie d'aucune organisation, aucun parti politique, qui en ont tellement assez de voir comme ils sont humiliés, comme quoi ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont bien formés.
Oui, mais je parlais des Palestiniens d'Israël. Hein.
Mais même.
Alors maintenant, les Palestiniens de Cisjordanie, eux, ce sont des résistants.
Oui, mais même en Israël aussi, de temps en temps.
Ils savent de quoi ils souffrent. De l'occupation, ça c'est sûr, et d'un manque d'avenir, et d'un manque de... Voilà. Donc, même si... quelquefois ils disent on garde l'espoir parce que sans espoir on ne peut plus vivre mais c'est différent il me semble au niveau
en Israël
non, là il y a beaucoup plus de résistance on la sent en Cisjordanie
quand tu es à Jérusalem et que tu parles avec les Arabes de Jérusalem
à Jérusalem alors c'est encore un autre problème il faut peut-être parler de l'enfermement parce qu'effectivement le mur quand ils ont commencé, ils ont voulu d'abord séparer Bethléem de Jérusalem. Donc là, c'est le mur le plus impressionnant. Enfin, aussi à Toulkarem aussi, il y a
Toulkarem
des
coins. Est pas mal.
Donc,
et puis à Bethléem aussi.
Voilà. Oui, c'est je parle de Bethléem et à Jérusalem. Maintenant, il est aussi même sur le mont des Oliviers où ils ont fait un checkpoint. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui tous les jours passent un checkpoint pour aller à l'école à l'intérieur de Jérusalem. Mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ça comme ça quand on n'est pas allé là-bas. Parce que c'est la géographie, enfin, de voir, de comprendre, c'est en allant sur place qu'on comprend un peu mieux. Donc ce mur, moi, je l'ai vu se construire et tout le monde était choqué. Même les Palestiniens disaient, ça va nous. C'est vrai, ça sépare une maison du champ d'olivier,
des familles.
Mais ça a séparé beaucoup les esprits parce qu'il y avait aussi quand même il y avait des contacts. Et c'est de plus en plus dur. Enfin, moi, les Palestiniens que je connais là-bas, ils disent, avec ce mur, c'est terminé. On peut plus. Pour aller à Jérusalem, il faut des autorisations et des autorisations qui donnent au compte-gouttes. Soit pour des raisons médicales ou des fêtes religieuses, etc. Et puis, en fait, c'est toujours l'arbitraire. En fait, ils changent toujours, les lois, elles changent tout le temps, là-bas. Tout d'un coup, on apprend qu'au checkpoint, oui, il faut descendre de la voiture. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, ce serait trop long. Mais les Palestiniens sont tout le temps obligés de s'adapter à ça. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'au fil des années, la situation, elle s'est normalisée. C'est-à-dire, quand on va là-bas, maintenant, ce mur, Non, pas qu'on le voit plus, mais
c'est... Non, je dis en boutade avec Vigo.
Voilà, il y a des artistes qui font des très belles choses sur ce mur à Bethléem. Il y a des témoins. Enfin, il y a cette année, j'ai vu des textes de jeunes palestiniens qui ça a été affiché sur le mur. Et vraiment, c'est. Voilà, mais c'est presque. Les touristes, entre guillemets, voilà, ils voient ce mur et puis on se dit c'est du définitif. Et en fait, les Israéliens ont très. Acté. Et ils ont très bien organisé l'enfermement. Parce que moi, j'ai vu la construction du mur et des checkpoints. Quoi. Maintenant, on appelle ça un terminal. Et on passe. Donc,
je voudrais dire quelque
voilà.
chose.
Donc Catherine.
Oui, non. Ce que je voudrais dire, c'est que Jérusalem, on parle du mur, mais il y a aussi toute la de l'intérieur, tout le grignotage, la floraison des drapeaux israéliens sur les maisons, parce que voilà, c'est on gagne, les Israéliens gagnent appartement par appartement. Maison et là, moi, maison. À deux années de distance, j'ai été mais impressionnée du nombre de drapeaux israéliens, parce que la technique c'est ça. Donc on occupe un appartement au-dessus d'un Palestinien éventuellement, comme ça il doit s'en aller parce que la loi dit qu'un Palestinien ne doit pas, un Israélien ne peut pas habiter au-dessus d'un Palestinien à cause des risques d'attentats, etc. Donc là, c'est ce grignotage aussi, y compris dans tous les quartiers de Jérusalem. Donc il y a le, c'est très très pernicieux, mais c'est très efficace, ça avance de façon très visible, et ça c'est bon, comme toute la colonisation, hein, parce que voilà.
En fait, quand on va en Palestine, on voit que l'horizon est barré tout le temps.
Partout,
il y a le mur.
Tous les côtés.
Par les colonies.
Et aussi, visuellement, tu en parles, la présence de ces drapeaux partout, israéliens. Effectivement, ça fait partie. Ah, oui. Ça fait partie vraiment de l'occupation. Et c'est vrai que c'est une stratégie quand même pour miner.
Diabolique.
Quoi. C'est diabolique. Non, mais c'est. Quand on y va, on le voit, c'est on le sent, parce que effectivement,
je dirais même qu'on le vit. Si on passe les checkpoints, si on vit avec les Arabes, on voit, on vit l'ambiance, l'environnement dans lequel ils sont, c'est épouvantable. Et avec ça, ils sont toujours aussi accueillants, toujours aussi joyeux. Ils sont sidérants.
Généreux.
Et donc, si vous devriez un peu revenir sur l'analyse que vous faites des évolutions.
Ils sont de plus en plus pessimistes. Enfin, moi, le
et des perspectives aussi.
Des perspectives, oui. Plus en plus pessimistes.
C'est difficile hein, comme exercice, là.
Parce que les perspectives.
Mais ils sont de plus en plus pessimistes, ça c'est vrai. Mais ils ont une capacité de vivre et de survivre qui se termine toujours avec un beau sourire en disant Inch'Allah.
Oui, mais en même temps, ils se battent dans la non-violence. C'est que les associations, enfin, je sais pas, c'est un très faible pourcentage en Israël, mais ceux qu'on a rencontrés, par exemple, cette année, moi, je trouve, c'est des gens extrêmement courageux, c'est remarquable, ils vont à contre-courant de tout ce qui se passe, et ils se battent pour le droit, pour la justice, pour la paix, et de façon concrète, enfin, bon, on pourrait parler de Taïouch, on avait fait une action ensemble, voilà, pour aller, par exemple, faire la récolte des moissons, alors que la semaine précédente, la récolte avait été brûlée par des colons. Donc voilà, ces associations sont très bien organisées pour avec des internationaux. Donc tout ça, ça demanderait presque une autre émission pour dire que en fait, moi quand je parle aussi avec quelqu'un qui vit là-bas depuis 50 ans, qui est française, elle dit que le changement viendra de la société israélienne et de ces jeunes s'ils voient la réalité en face et qu'ils se sentent capables de faire quelque chose, ils restent et ils essayent d'agir. Les autres, ils partent. Et c'est une catastrophe parce que ils quittent ce pays, ils vont à Berlin, en Inde ou je sais pas où, parce qu'ils se sentent impuissants à changer les choses.
Oui, ils veulent pas être. Moi, j'avais été très frappée à Hébron, par exemple, par le fait que certains occupants colons de la première heure étaient partis parce qu'ils voulaient pas être justement assimilés à ceux qui sont maintenant, qui sont extrêmement violents.
Ah oui.
À Hébron, c'est très violent. Et voilà. Et effectivement, ce que dit Thérèse, c'est-à-dire que les entre guillemets ceux avec qui il aurait peut-être été possible de composer sont partis parce que et c'est les plus violents, les plus irréductibles et les qui restent. Et ça c'est le vrai problème, parce que ce territoire palestinien, quand même, il ne se réduit à plus rien du tout. Enfin, je veux dire, au début il y avait une zone, après il y a une zone rétrécie, puis maintenant c'est des petits points, voilà. Il n'y a plus rien.
C'est un vrai...
Ce qui pose la question de la constitution d'un État. Voilà. Si,
Justement, par rapport à la constitution d'un État, la confiance dans les institutions internationales qui ont pu faire des pas, mais très, 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 très timides.
Moi, je dirais qu'on en parle tout le temps, un État, deux États. Oui, il faut que la Palestine... Ait... Voilà, on a encore eu récemment le secrétaire des Nations Unies qui allait à Gaza, qui a dénoncé la situation, qui a été très choqué. Voilà, il est rentré chez lui et puis il se passe rien. Ça suffit pas de dénoncer, de parler, même de voir. Si c'est pas suivi d'action... Je pense que... c'est compliqué.
Israël met toujours des conditions supplémentaires. Donc la dernière en date, c'est que les Palestiniens doivent reconnaître la qualité juive, que Israël est un État juif, la qualité d'État juif d'Israël. À la limite, quand ils accepteront de reconnaître, il y aura autre. Voilà, c'est toujours la fuite en avant.
Et la communauté internationale est beaucoup trop timide aussi, parce que...
Oui, mais reste à savoir, on ne sait pas pourquoi il est si timide. On ne sait pas pourquoi. Là-dessous, on rentre...
Pourquoi une telle passivité de certains gouvernements, une complicité passive, on va dire comme ça, ou même une aide objective pour Israël, alors qu'il n'y a vraiment pas... plus beaucoup de temps. Je voulais juste dire que Gaza, un rapport tout récent dit que Gaza ne sera plus vivable en 2020. 2020,
c'est bientôt.
C'est demain.
Oui.
Il y a le problème de l'eau, le problème sanitaire, le problème de l'assainissement, pas uniquement le manque d'eau potable. C'est vraiment une catastrophe.
Le blocus économique.
Il y a le blocus, il y a les bombardements aussi.
Et l'enfermement. Ils peuvent fuir nulle part.
La pollution. Vraiment, Gaza aujourd'hui. Et donc, on ne peut que saluer le courage des Gazaouis aujourd'hui qui trouvent toujours des tas de... qui survivent et qui organisent même des activités et qui nous causent régulièrement même à travers les technologies.
Internet.
Mais c'est de la survie.
Alors, il est 57, c'était une émission passionnante. Merci mesdames.
Merci à vous.
Alors, il faudrait peut-être rappeler, il y a un site national de la FPS.
Oui, alors effectivement, si vous tous qui nous écoutez, vous avez envie de soutenir ce jeune avocat dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Salah Amouri. Il est possible de se rendre sur le site de la FPS, donc www.france-palestine.org, et vous trouverez toutes les pétitions à signer pour Salah Amouri, et en tout cas l'actualité de cette question.
Donc merci mesdames. Merci. Je rappelle qu'Atra Krohn s'intéresse à la Palestine et fait partie du collectif 69 pour la Palestine. Et que donc, nous sommes ravis de vous avoir accueillis.
Merci.
Merci de nous avoir donné ce temps.
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local.